France Inter.
Entre 2018 et 2024, nous avons enfin arrêté cette pente descendante de la désindustrialisation. Je pensais que la politique industrielle était bien évidemment un élément essentiel de notre politique économique, mais qu'elle est aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, un élément de cohésion nationale.
Sébastien Martin, ministre délégué à l'industrie. Une cohésion nationale bien mise à mal cette semaine. Biogarant, le leader des médicaments génériques, part chez les anglo-saxons de BC Partners. On l'a appris hier soir. Une scène qui ne cesse de se répéter. Sanofi a cédé il y a quelques mois au Pella et au passage une partie du Doliprane à des intérêts américains. LMB Aerospace, un sous-traitant du Rafale, passe lui aussi chez l'oncle Sam. On peut également parler d'Exaion, filiale d'EDF dans la puissance de calcul qui pourrait prendre la même direction. A l'inverse, Roland Lescure, ministre de l'économie, a mis cette semaine son veto à la vente des antennes de l'opérateur satellitaire Eutelsat, un fonds suédois. Toujours le même mot qui revient, la souveraineté, mais à géométrie variable. Si on veut être sérieux, il faut poser la seule vraie question. Qu'est-ce qu'on protège exactement? Le drapeau, là, sur la porte d'entrée, ou la capacité industrielle et technologique à produire ici, à décider ici? Toutes ces ventes ne racontent pas la même histoire. Vendre une activité mature peut être une stratégie. Pour Biogarant, Servier explique vouloir se recentrer sur l'innovation, notamment l'oncologie. Et dans le monde qui vient, c'est là que ça se joue. Les biotech chinoises montent en puissance, les Américains accélèrent. L'Europe doit avoir les moyens de rester dans la course. Mais il y a l'autre face de la pièce. On vend souvent parce que l'on manque de cap, de moyens ou de temps. Alors pour rassurer, la BPI entre parfois au capital. On brandit aussi des droits de veto. Très bien, mais le vrai test, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans les années à venir. Il faudra vérifier si le siège est toujours en France, si la production et les emplois sont restés ici. Et ça, on le sait, la réponse n'est pas toujours oui.
On n'arrête pas l'écho. Emmanuel Duteil sur France Inter.
Bienvenue dans votre Mag Echo. Alexandra sera de retour dès le week-end prochain. Je commence par vous présenter l'équipe de ce week-end. Valentin Pérez, comme toujours, m'a aidé à préparer cette émission. Anne-Cécile Perrin était notre chasseuse de son. À la réalisation, Céline Hila. Le mixage a été fait par Nicolas Delmas. Et à la console, là, juste derrière la vitre, Loïs Moreau. Alors, comment raccorder tout le monde au réseau électrique? Comment rénover un réseau vieillissant et l'adapter aux changements climatiques et aux cyberattaques? Comment utiliser l'IA pour être plus efficace, notamment dans les cas de tempête? Le changement des heures creuses, ça sert à quoi au final? Bref, la France est-elle prête pour sa deuxième électrification? Pour y répondre, Marianne Legnaud, patronne d'Enedis, sera notre invitée vers 9h40. Pour y arriver, il va aussi falloir réindustrialiser. Mais à quel prix local? Derrière de nombreux projets d'usines, il y a des tensions sur le terrain. On ira dans l'Aisne ce matin, voir le projet de l'usine Rockwool, qui veut faire de la laine de roche. Et vous le verrez, ce projet divise. Nous sommes quoi? Tiens, au fait, il paraît qu'on est le dernier samedi du mois, ça veut dire quoi? Eh bien, on retrouve Christian Chavagneux. Bonjour Christian!
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous.
Allez, vous avez sélectionné quel livre pour nous ce matin?
Je vais vous emmener dans les coins sombres de la mondialisation. On va parler d'Elon Musk et puis de la traite des êtres humains.
Allez, on vous retrouve en fin d'émission. Bonjour Jacques-Olivier Martin.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de la rédaction du Figaro.fr. Bonjour Eric Ayer.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Alors, les chiffres du chômage sont tombés cette semaine. Ils remontent doucement, plus 1,7% en 2025 pour le nombre de demandeurs d'emploi, malgré les faillites. La croissance résiste, on peut le dire ainsi, elle est quasiment un petit pourcent, malgré l'instabilité politique. Alors, question simple, malgré tout, dans ce contexte, la promesse du plein emploi d'Emmanuel Macron est-elle devenue un mirage? C'est notre débat du jour.
2022.
Premier objectif pour travailler plus, c'est le plein emploi.
Emmanuel Macron.
Cet objectif est atteignable. Il consiste à faire, dans les 5 ans qui viennent, ce que nous avons fait dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. En prenant cet engagement, je suis volontariste mais réaliste.
Le plein emploi sera au rendez-vous en 2025.
2013.
Pas dans n'importe quelle condition.
Pierre Moscovici.
Il sera au rendez-vous si justement nous sommes capables de construire cette France plus performante, cette France plus efficace, cette France qui investit, cette France plus compétitive. Je me tourne vers l'Allemagne. Vous connaissez notre grand voisin. Il y a 10 ans, que disait-on ? L'Allemagne, c'est le malade de l'Europe. Eh bien, si vous regardez l'Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne est proche du plein emploi. Regardez l'Autriche.
2007.
Regardez le Danemark, regardez la Suède.
Nicolas Sarkozy.
Je dis aux Français qui nous écoutent, il y a 10 pays en Europe qui ont le plein emploi. Bon, pourquoi les autres le font et pas nous ? Alors vous me dites qu'il y a de la précarité. Je dis pas que ça résout tous les problèmes, mais c'est quand même mieux d'avoir le plein emploi que d'avoir des chômeurs.
Le plein emploi aujourd'hui, c'est pas zéro chômeur.
Martine Aubry.
C'est 4, 5, 6% de chômeurs.
1999.
Mais des hommes et des femmes qui passeront au chômage très peu de temps. Donc ça ne sera pas un chômage qui casse, qui abîme, comme on le voit depuis 20 ans maintenant. Ça sera un passage entre plusieurs emplois. C'est vers là que nous allons. Mais encore une fois, allons-y de manière solidaire et en faisant en sorte de bien préparer les entreprises aux emplois de demain.
Écoutez.
1981.
Sur le plan social,
Pierre Mauroy.
Il n'y a rien de pire que de jeter des hommes et des femmes et des jeunes sur le pavé comme on le fait actuellement. Le chômage est un véritable cancer. Il est absolument indispensable d'aller vers une politique du plein emploi qui permettrait de donner à chacun du travail. Ça, c'est l'essentiel.
La situation de notre France est celle.
Michel Debré, 1961.
Le redressement réalisé en 1958 par le général de Gaulle dès son retour à la tête des affaires a porté ses fruits, qu'on en jure. L'industrie ne connaît pratiquement pas de chômage. Nous sommes, comme on dit, en état de plein emploi.
On aurait presque envie d'en rire hein, s'il n'y avait pas des hommes et des femmes derrière ces chiffres du chômage. Éric Heyer, je débute avec vous. Vous suivez toutes ces questions de près depuis des années. Quand on voit un chômage qui ne s'envole pas malgré une économie et qui fait un petit peu de croissance, un tout petit pourcent, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de résilience du marché du travail ? Ou c'est une illusion ?
Alors, je pense qu'on pouvait parler de résilience, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, là, la statistique que vous avez donnée, c'est celle des inscrits à France Travail. Alors attention, c'est pas le chômage. Le chômage, c'est au sens du BIT. Il faudra attendre encore un tout petit peu pour avoir le quatrième trimestre. Ça sera le 10 février. Et donc là, France Travail, pourquoi ? Moi, je ne regarde plus ces statistiques-là en 2025 parce que ça a été perturbé par deux grandes mesures administratives. D'abord, la loi plein emploi. C'est quoi la loi plein emploi ? C'est que maintenant, tous les bénéficiaires du RSA, tous les jeunes qui sont dans les missions locales, toutes les personnes en situation d'handicap qui sont suivies par Cap Emploi, sont maintenant inscrits d'office à France Travail. Et donc, ça fait augmenter de façon significative ces chiffres de France Travail. Et comme si ça ne suffisait pas, au mois de juin, on a passé un décret qui assouplit finalement les sanctions que l'on fait à ces demandeurs d'emploi. Et donc, il y a beaucoup moins de radiation. Et donc, les statistiques s'envolent. Et donc là, le ministère du Travail essaye de dire, alors attention, on va essayer
de... Vous voulez dire que le thermomètre ne veut rien dire,
déjà. Il ne veut plus rien dire. Et le seul thermomètre qu'il faut regarder dans les inscrits à France Travail, c'est la nouvelle catégorie, la catégorie G. Pourquoi elle est intéressante, celle-là ? Parce que je pense que c'était une bonne idée de dire on va essayer de remobiliser ceux qui sont sortis finalement de l'activité. Donc c'est très bien, c'est une bonne intention. Le problème, c'est qu'on les a mis dans une catégorie d'attente, parce qu'on ne les connaît pas, ils n'ont pas rempli de dossier, et cette catégorie d'attente a explosé. Il y a 812 000 personnes qui sont en attente d'un rendez-vous avec un conseiller France Travail, avec un conseiller d'une mission locale. Donc vous voyez, il va falloir regarder cette catégorie. Ça veut dire, est-ce qu'on met les moyens pour essayer de réactiver les personnes ?
Mais d'accord, si on se résume, si on regarde le chômage monte malgré un peu.
Mais oui, parce que si vous regardez les chômeurs, donc encore une fois, on n'a que les 3 premiers trimestres, on n'a pas encore le 4e, ça fait plus 152 000 depuis le début de l'année. Ah, alors vous voyez, avec 0,9% de croissance, habituellement, là, depuis 4 ans, on était habitué avec 0,9% à faire baisser le chômage. Maintenant, avec 0,9%, le chômage augmente. Vous voyez, ça fait quand même une augmentation significative. Et donc, je pense qu'on est dans un vrai retournement du marché du travail qui va continuer.
Alors justement, Jacques-Olivier Martin, on a eu aussi les chiffres de l'emploi salarié hein, cette semaine. 40 000 destructions de postes là, avec un indicateur clé, hein, l'industrie qui ne crée plus d'emplois. On pourrait même avoir des destructions d'emplois sur l'année 25. J'ai regardé la une du Figaro hier matin. Oui. Vous dites, attention, la promesse du plein emploi s'éloigne. C'est-à-dire que la machine est grippée ?
Disons que je partage largement ce que dit Eric. Alors, on a eu une période de baisse, hein, très claire. Quand même, on est passé à peu près de 9,5 points de chômage, avec une statistique qu'on pourrait comparer aujourd'hui à 7,7. On était descendu à 7,2. Donc oui, la dynamique de baisse s'est arrêtée. Alors, elle s'est arrêtée depuis quelques années. Ça nous éloigne de la perspective du plein emploi. Je le rappelle, hein, quand on parle de plein emploi, je le mets sous le contrôle d'Eric, mais c'est 5-6% dans un pays...
Alors, ça dépend des pays, en effet.
Comme le nôtre. Alors, qu'est-ce qui s'est arrêté? C'est pour ça que moi, je suis assez inquiet. Il y a eu une baisse de la croissance, quand même, assez significative. Entre le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et aujourd'hui, elle a été à peu près divisée par deux. On a eu l'explosion des taux d'intérêt qui freinent l'investissement. Et puis, on a une instabilité politique qui est totalement... qui perturbe terriblement les chefs d'entreprise qui, eux, sont dans une dynamique. Ils ont besoin d'avoir confiance pour décider d'investir vers l'avenir, faire de l'investissement, l'innovation, et donc créer des emplois. Donc c'est cette dynamique, j'ai envie de dire, conjoncturelle, avec une perturbation politique, et puis quand même des choses de fond sur l'évolution du paysage économique. C'est ça qui va nous empêcher, je pense, en tout cas, d'espérer le plein emploi dans les deux ans qui viennent.
Mais là, le ZAP qu'on vient d'écouter, il est quand même impressionnant. Depuis les années 60, on promet le plein emploi sans quasiment jamais y arriver. C'est-à-dire qu'on est incapable de le faire en France, Eric Ayer ?
Alors, c'est plus compliqué en France qu'ailleurs. Alors, pour des bonnes raisons, hein. C'est-à-dire que globalement, par rapport aux autres pays, on a tout de même une démographie qui était bien plus dynamique. Alors, même si là, on se plaint d'une baisse du taux de fécondité, il faut le rappeler, on a encore les taux de fécondité les plus élevés d'Europe. Il n'y a que la Bulgarie qui ont un taux de fécondité supérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'entrées de jeunes qui arrivent sur le marché du travail par rapport aux personnes qui partent. Et donc ça nécessite beaucoup plus de création d'emplois chez nous pour stabiliser le chômage qu'ailleurs. Ça, c'est la première. Mais c'est quand même une bonne raison. C'est-à-dire que c'est bien qu'on ait quand même des jeunes. La deuxième bonne raison, c'est qu'on a toujours eu une productivité élevée. Même si elle a baissé depuis 3 ans, globalement, on a une productivité horaire qui est supérieure à tout le monde. Ça veut dire quoi, une productivité horaire supérieure? Ça veut dire que pour créer des emplois, il nous faut plus de croissance. Donc, alors, je résume. Pour créer des emplois, il nous faut plus de croissance. Et pour faire baisser le chômage, il nous faut plus d'emplois. Donc, ça veut dire qu'il nous faut beaucoup plus de croissance en France pour faire baisser le chômage. Juste une statistique, vous voyez, l'Italie est passée de 12,9 en 2015 à aujourd'hui moins de 6%.
5,7 pour être précis, plus bas depuis 20 ans.
Exactement, donc en 10 ans, ils ont réussi à diviser plus
mais
que par
deux. Mais principalement par un effet démographique.
Mais voilà, avec 1% de croissance. Nous, avec 1,2% de croissance, donc avec plus de croissance, eh ben, le chômage n'a baissé que de moins de 3 points. Donc ça veut dire que, attention, vous voyez, l'effet démographique, c'est quand même, ça joue beaucoup, et l'effet productivité aussi. Mais ensuite, on a fait des très mauvaises politiques économiques, ça, vous voyez. Il y a deux grandes type de politique économique. Il y a soit le soutien à la demande, c'est-à-dire que quand les carnets de commandes sont vides, bah vous voyez, les chefs d'entreprise, même si vous réformez, ils ne vont pas embaucher. Donc il y a les politiques de demande. Et les politiques structurelles, quand on est avec des carnets de commandes qui sont pleins, on a voulu mener que des politiques structurelles qui étaient on baisse le coût du travail, on réforme le marché du travail avec les lois El Khomri, les lois Pénicaud, mais on ne s'est pas attaqué aux vrais problèmes, qui sont les problèmes des jeunes qui sortent sans rien de la scolarité, les fameux NEET, et le problème du logement, qui est le problème massif de mauvaise intégration du marché du travail.
Et avec des changements perpétuels, je pense à l'apprentissage notamment, où on change les règles, et notamment les aides pour les entreprises. On sait que ça a quand même un impact majeur. Je voyais réagir, Jacques-Olivier.
Oui, moi je ne partage pas la deuxième partie de l'analyse d'Éric. Moi je ne crois pas qu'une politique de la demande, ce qui a permis, quand on analyse ce qui s'est passé depuis 5-6 ans, la baisse de 2 points et demi qu'on a pu constater, elle s'est faite essentiellement sur des réformes qui ont été menées, des réformes pour s'attaquer au problème du chômage. Je pense par exemple aux ordonnances travail, à l'apprentissage. On a augmenté ou doublé le nombre d'apprentis et d'alternants en quelques années. C'est-à-dire qu'on a fait des réformes qu'on ne fait plus, qu'on n'a plus les moyens de faire. Donc c'est aussi, on a cassé une dynamique qui nous permettait de baisser le chômage. Et puis, je pense aussi que cette politique de l'offre, la baisse du coude, est un élément fondamental pour les entreprises dans leurs décisions, même pas dans leurs décisions, elles deviennent plus compétitives et donc peuvent innover et investir.
Vous dites non, Éric Heyer.
Non, je dis non parce que la politique de l'offre, normalement, elle a comme mission de faire augmenter la productivité du travail. Or, pourquoi le chômage a baissé depuis 5 ans? C'est parce qu'on a fait baisser la productivité. La productivité a baissé, donc ce n'est pas la politique de l'offre. Pourquoi on a créé
autant... raisons parfois exogènes, parce que par exemple, on a eu beaucoup d'apprentis, un apprenti est moins productif. Mais... ce serait un tiers de notre baisse de la productivité.
Oui, bien sûr, mais l'apprentissage, ce n'est pas une politique de l'offre. Vous voyez, ce n'est pas une baisse du coût du travail. C'est juste vous subventionner
en faveur de la création d'emplois.
Oui, mais ce n'est pas des politiques de l'offre. C'est juste vous subventionner, d'accord, de l'emploi. Mais ça coûte très cher. Ça ne s'autofinance pas. Donc, on a baissé la productivité par l'apprentissage et on a sauvé des entreprises qui auraient dû faire faillite. Ça a coûté très cher. Donc, on a réussi à créer des emplois, mais à un coût budgétaire énorme. Aujourd'hui, on nous dit on ne peut plus.
Ça, c'est
on
le poids qu'il en coûte, les PGE,
exactement, les PGE et les aides aux entreprises. Maintenant, on nous dit il y a 6% de déficit, il faut les résorber. Ah, tiens, quand on résorbe les déficits, on détruit des emplois. Donc, ça veut dire que ce n'était pas du tout structurel, c'était que conjoncturel. Donc, toutes les politiques structurelles qu'on a menées nous aboutissent pas à des baisses du chômage, parce qu'on va revenir petit à petit à 8% de chômage. Et c'était exactement le niveau de chômage avant ces fameuses réformes de l'offre qui n'ont pas marché.
Alors, c'est du structurel et du conjoncturel, mais on entend aujourd'hui beaucoup parler de l'impact de l'IA. Rien que cette semaine, on va prendre rien que le cas Amazon, 16 000 suppressions de postes, encore en plus, justifiées en grande partie par de l'IA. Est-ce que le plein emploi est atteignable à un moment où on ne sait pas ce qu'en seront les emplois de demain pour ceux qui postulent en ce moment?
Oui, l'IA, ça va faire des gains de productivité. Donc là, on est reparti sur des gains de productivité hors IA qui étaient élevés, plus l'IA qui va augmenter ces gains de productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gains de productivité devraient être à 1,5%. Et donc, si vous avez une croissance à 0,9%, vous allez détruire des emplois et donc vous n'arriverez pas au plein emploi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir accompagner par des politiques aussi de croissance, mais d'une croissance soutenable d'un point de vue de l'environnement. C'est ça l'enjeu. C'est attention, le plein emploi, oui, mais soutenable d'un point de vue environnemental.
Jacques-Olivier Martin, est-ce que finalement, on n'est pas un peu en train de créer une sorte de marché du travail à deux vitesses, très protecteur pour ceux qui sont dedans, en tout cas relativement protecteur, ce qui est quand même eu des réformes très importantes de l'assurance chômage, mais très dur pour ceux qui restent dehors.
Oui, c'est quand même le cas depuis très très longtemps. Effectivement, ce marché à deux vitesses, cette dualité, elle demeure. Alors, elle s'est peut-être un petit peu atténuée. On a réussi, alors on parlait de l'alternance, faire rentrer les jeunes plus facilement dans le monde de l'entreprise. Et je pense que c'est une chose très positive, en tout cas pour construire une carrière, pour collaborer entre des gens qui sont mal formés, pas encore formés, avec des entreprises, et d'adapter les besoins entre les entreprises et leurs salariés. Je pense que la flexibilité se recherche, les entreprises recherchent la flexibilité. Les salariés, eux installés, sont plutôt en résistance. Donc, j'ai l'impression que ça progresse un peu, mais on est toujours dans un monde de dualité, il n'y a pas de doute.
Éric Heyer, vous êtes consulté par tous les futurs potentiels candidats pour venir chercher les bonnes idées pour 2027 hein ?
Oui, et y compris par le gouvernement. On ne peut pas dire qu'on n'est pas, consulté. Après, c'est peut-être très compliqué de mettre en application la bonne politique économique.
Ce sera le thème majeur pour vous de 2027, Jacques-Olivier ?
A priori, je ne pense pas. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle d'insécurité, d'immigration. Moi, j'étais surpris, j'ai vu un sondage il n'y a pas longtemps, je crois que c'était au milieu du mois de janvier, où c'était la 11e préoccupation des Français, le chômage. Donc,
mais
ça
on sait
change.
Que quand les plans sociaux arrivent, ça remonte très vite.
Ça peut changer très vite.
Parce qu'il faut dire que c'est les chômeurs, personne s'en soucie. C'est-à-dire qu'on ne manifeste pas pour les chômeurs.
Jacques-Olivier Martin, directeur de la rédaction du Figaro.fr. Éric Heyer, le directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Ils ont fait le débat éco de ce 31 janvier.
Real decreto ley para la ampliación
de derechos
a los trabajadores.
C'est l'heure de l'actu éco en VO. Chaque semaine, un correspondant nous raconte un fait économique qui dit quelque chose et profond sur l'économie de son pays.
London's vibrant nightlife is crucial to the spirit and success of our city. Together, we can continue to build a better London for everyone.
Alors, on vient d'entendre Sadiq Khan, c'est le maire de Londres, et il veut que la capitale britannique reste une ville de fêtes nocturnes, car si elle reste dynamique après la tombée du jour, il paraît que c'est plus tout à fait comme avant. On va retrouver justement sur place notre correspondante Gaëlle Joly. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Emmanuel.
Alors dites-nous, qu'est-ce qui a changé concrètement dans les habitudes des Londoniens ? On sort moins, est-ce que c'est à cause du coût de la vie, de la sécurité, du télétravail ?
Alors oui, on sort moins, mais surtout, on dépense moins quand on sort. En gros, la nuit londonienne n'a pas disparu, mais on va dire qu'elle s'est rationalisée. Le premier facteur, vous le disiez, c'est le coût de la vie. Avec la montée de l'inflation, les loyers hors de prix ici, le coût du gaz, eh ben, une pinte à 8 euros, ça fait mal, sans compter le coût des transports, taxis, métro. Résultat, on sort beaucoup moins, on consomme moins sur place et on rentre plus tôt. Il y a aussi le télétravail, moins de bureaux pleins, moins d'afterworks. Du lundi au vendredi, par exemple, la demande s'est effondrée sur ces créneaux-là. La sécurité pèse aussi, mais surtout pour ses effets économiques, un personnel supplémentaire, assurance plus élevée. Pour les exploitants, ouvrir tard coûte cher et rapporte moins. Ajoutez à cela des exigences complexes en matière de licence, un cocktail qui pèse lourd sur l'économie de la nuit. Plus de 20% des bars et des clubs de nuit ont fermé depuis la pandémie de Covid, selon un rapport publié l'an dernier.
Alors justement, certains craignent que Londres perde une partie de son identité nocturne. Ça fait plusieurs mois que le maire met sur la table des idées et là, il veut en tester une nouvelle, Gaëlle.
Oui, pour sauver les nuits londoniennes, Sadiq Khan a annoncé la création d'une commission sur la vie nocturne avec un plan d'action. Il propose par exemple d'étendre les horaires d'ouverture dans certains quartiers, faciliter les licences tardives après minuit qui coûtent très cher, qui sont difficiles à décrocher et juridiquement risquées, protéger plus les bars et les restaurants contre les plaintes de tapage nocturne qui ne cessent d'augmenter et même créer de véritables zones de nuit où on aurait l'habitude de sortir tard. L'idée, c'est de concentrer l'activité pour la rendre plus rentable plutôt que de la disperser. L'enjeu est énorme, hein, l'économie nocturne londonienne, c'est plus d'un million d'emplois, ça représente environ un quart de la production économique totale de la ville, soit l'équivalent de 46 milliards d'euros par an.
Merci beaucoup Gaëlle Joyeux. Alors il y a encore tout pour vous dire d'aller faire la fête, mais on vous souhaite quand même une très très bonne soirée à venir ce soir à Londres. Je rappelle justement que vous êtes la correspondante de France Inter sur place. Il est 9h34 entre raccordement au réseau électrique et rénovation totale du plus grand réseau d'Europe. Comment faire face à la deuxième électrification de la France pour éviter le blackout? Dans moins de 10 minutes, l'invité du MagEco sera Marianne Léniaud, c'est la patronne d'Enedis. Alors si on veut réussir cette deuxième électrification, il faudra des industriels en France pour fournir le matériel dont on a besoin. Et bien ça ne sera pas si simple car derrière de nombreux projets d'usines, il y a parfois des tensions très fortes sur le terrain. Notre reporter, Léa Guetsch, s'est rendue dans l'Aisne, à Courmel. Là-bas, le groupe danois Rockwool tente d'implanter une usine d'isolant en laine de roche, un projet qui suscite l'opposition d'une partie des habitants, comme Yannick Champin de l'association Stop Rockwool.
On peut voir, il y a des graffitis, il y a des autocollants sur les panneaux, il y a des gens qui ont accroché des affiches sur leur maison. Rockwool, on a dit non. Rockwool toxique, etc. Arrivé au bout de cette rue résidentielle, on arrive dans la zone industrielle. Nous sommes face au terrain sur la commune de Courmel, où risque d'être construite une usine de l'industriel Rockwool. Un projet industriel de production de laine de roche, qui actuellement est occupé par quelques baraquements de chantier, et on voit qu'il y a eu quelques travaux de terrassement. Moi, je suis scandalisé par ce projet depuis le début, et je le suis toujours. Cette usine, elle pose différents problèmes. Il y a d'abord la consommation d'énergie qui est si importante qu'il y a une ligne électrique qui doit être tirée sur plusieurs kilomètres. Il y a ensuite un impact potentiel sur l'eau puisque le réseau de la zone est à peine suffisant pour alimenter cette usine, ce qui veut dire que ça peut aussi gréver d'autres projets. Les cheminées, selon les documents fournis par l'enquête publique, recracheront 814 tonnes par an de 30 composés chimiques, dont des perturbateurs endocriniens et des cancérigènes avérés. Toutes les matières premières nécessaires à la fabrication de laine de roche sont extérieures au territoire. C'est un projet hors sol. On pense qu'il y a d'autres façons de faire. Les matériaux biosourcés sont aujourd'hui beaucoup plus adaptés aux exigences de la transition écologique. Et nous sommes dans une région qui est en capacité de produire de grandes quantités de matériaux biosourcés, avec la paille, le lin, le chanvre par exemple. Depuis 6 ans, même 7 ans maintenant, ce terrain est bloqué et n'est pas disponible pour d'autres projets, alors qu'il y a des entreprises comme le groupe français Saint-Michel qui souhaitent s'installer dans la région et qui pourraient embaucher sur une surface 2 fois moindre, 3 fois plus de personnes.
Le projet de l'entreprise Recoule suscite l'opposition de riverains, d'associations environnementales, d'agriculteurs, mais aussi de nombreux professionnels de santé et même du maire de Courmel, la commune où l'usine pourrait s'implanter. Les opposants entendent bien faire de ce projet un enjeu des prochaines élections municipales en mars. Mais malgré des années de batailles juridiques et de multiples recours déposés, l'industriel Recoule ne renonce pas.
Bonjour, bienvenue chez Recoule.
Mathieu Biens, directeur marketing et développement produit, me reçoit dans son bureau au siège parisien de l'entreprise.
On a décidé de s'implanter à Courmel pour des raisons logistiques, d'être près de nos marchés. On a déjà une usine dans le milieu de la France, dans le Puy-de-Dôme. Donc il était plus important pour nous d'être positionné un peu plus dans le Nord pour pouvoir servir le marché du Nord et le bassin parisien. On a vocation à fabriquer environ 110 000 tonnes de laine de roche par an, en particulier pour les établissements qui reçoivent du public, les ERP, ou encore les bâtiments industriels, mais également l'isolation par l'extérieur des logements. Aujourd'hui, en France, on importe des laines minérales de manière générale. Le fait de produire en France permet de diminuer ces imports. Donc on relocalise, on va créer 130 emplois directs sur notre site. On a d'ailleurs déjà des centaines de candidatures spontanées pour postuler sur cette usine qui va peut-être démarrer en 2028. On a aussi un soutien de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, parce qu'on va utiliser une technologie électrique décarbonée pour notre process de fabrication. On est convaincu qu'on a un permis environnemental très solide. Donc en cochant toutes ces cases, on ne s'attendait pas à devoir expliquer autant notre projet.
L'usine de Recoule est loin d'être le seul projet contesté en France. Une ferme-usine de saumon dans l'estuaire de la Gironde, un site de production de carburant à partir de bois dans les Pyrénées-Atlantiques, une usine de traitement des déchets dans l'Aveyron, des protestations existent partout dans le pays. Chloé Gerbier est juriste pour l'association Terre de Lutte, qui soutient les collectifs contre des projets dits imposés et polluants.
Un des premiers moteurs de la contestation des projets, c'est réellement le déni de démocratie. L'impression que les projets s'implantent parce que le promoteur a choisi ce territoire-là pour des raisons économiques, géographiques, mais qui n'ont rien à voir avec les besoins des populations locales. On va avoir certaines enquêtes publiques où le commissaire enquêteur va rendre un avis négatif, mais cet avis du commissaire enquêteur, il ne lie pas le porteur du projet. Le projet peut s'implanter malgré le fait qu'il y ait une contestation et globalement un avis de la population qui serait négatif. Et les projets sont de plus en plus imposés parce que aussi le droit de l'environnement, lui, est de plus en plus faible pour permettre à ce que les projets industriels s'implantent plus facilement et plus rapidement surtout. Et ça, c'est une série de législations, de la loi ASAP à récemment la loi d'orientation agricole qui, elle, va accélérer des projets comme les mégabassines ou les fermes-usines. On voit réellement une volonté de compacter le droit de l'environnement pour que les projets s'implantent plus rapidement.
Ces contestations se concentrent principalement sur les activités extractives, le traitement des déchets, les énergies renouvelables ou encore les méthaniseurs.
Caroline Granier, je suis directrice des études à la Fabrique de l'Industrie.
Suivez-moi. Selon le think tank, 603 projets industriels ont été contestés entre 2010 et 2024. Mais le secteur manufacturier a été relativement épargné.
Seuls 61 projets concernant l'industrie manufacturière ont fait l'objet de contestations se matérialisant par des actions de type manifestation, pétition, médiatisation, recours. Au regard des 2300 créations de sites industriels de plus de 30 emplois qui ont été répertoriés sur la même période. Ces projets contestés sont concentrés dans un petit nombre de secteurs, notamment les activités polluantes, les activités chimiques, les usines d'enrobés, cimenteries, qui présentent soit des risques pour la santé, des risques pour l'environnement et des nuisances assez fortes pour les riverains. Notre étude montre que certes, il y a un petit nombre finalement de projets contestés, mais lorsque ces contestations et ces oppositions existent, elles peuvent mener à l'abandon du projet. Mais ce que montre également notre étude, c'est que dans certains cas, les oppositions peuvent faire émerger finalement l'idée d'une co-construction entre les habitants du territoire, les industriels et aussi les collectivités territoriales. En d'autres termes, ça peut être aussi l'occasion de reconfigurer un projet et de l'ancrer davantage dans les caractéristiques des territoires.
Subventions, réduction de cotisations sociales, crédit d'impôt, pour encourager l'implantation de sites industriels, le gouvernement accorde des coups de pouce aux entreprises pour un montant situé chaque année entre 180 et 240 milliards d'euros. Nadine Levrato est économiste au CNRS, spécialiste des relations entre entreprises et territoires. Je la retrouve dans son bureau de l'École des Mines à Paris.
Le problème des aides individuelles aux entreprises, c'est que la plupart d'entre elles ne sont pas conditionnées. C'est-à-dire que l'entreprise y a droit sans même qu'elle ait à les demander pour certaines. Hein, c'est le cas des exonérations de cotisations sociales. Et ces aides-là n'ont pas forcément d'impact en termes d'emploi, notamment, ou en termes de maintien de la part de l'industrie dans le produit intérieur brut français. Les élus, les électeurs peuvent s'interroger sur l'intérêt qu'ils ont à accueillir des établissements qui génèrent obligatoirement des nuisances. Donc il faut qu'il y ait des retombées locales de ces implantations pour que les populations et les élus voient d'un œil plus favorable l'arrivée de ce type d'activité. Donc, l'une des recommandations que l'on peut faire, c'est d'augmenter la part des aides collectives aux entreprises qui permettent de construire des projets d'activité comme bien les pôles de compétitivité, des territoires d'industrie. On avait eu des systèmes locaux de production où on va faire travailler des secteurs ensemble et également de conditionner davantage ces aides, soit en fonction de la création d'emplois, soit en fonction des éco-investissements et également en demandant aux entreprises des engagements qui soient opposables devant des tribunaux, par exemple, pour s'assurer de leur ancrage local. Donc ça aussi, ce serait une manière d'améliorer l'acceptabilité de l'industrie.
Création d'emplois, contestation locale, quand les projets d'ouverture d'usines créent des tensions. C'était le reportage de Léa Gage.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Emmanuel Duteil.
Bonjour Marianne Léniaud.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Enedis, c'est-à-dire le réseau du quotidien pour l'électricité. Près de 40 millions de clients, 1,4 million de kilomètres de lignes. Ça représente 35 fois le tour de la Terre. Et je crois qu'à lui seul, ce réseau, c'est 15% de tous les réseaux européens. Vous venez de lancer un plan gigantesque d'investissement parce qu'il faut raccorder plus vite, il faut moderniser, il faut adapter ce réseau. Vous dites souvent, nous sommes face à la deuxième électrification de la France. C'est ça le défi des années qui viennent ?
Absolument, c'est le défi Enedis qui est à la fois un grand service public, une grande infrastructure, mais aussi une entreprise industrielle veut relever, est en train de relever. Qu'est-ce que ça veut dire d'électrifier une deuxième fois la France ? Ça veut dire de sortir progressivement des énergies fossiles. Je rappelle, hein, 60 milliards de factures d'importation pour 2025. Pour aller vers plus d'électricité tout en baissant notre consommation globale d'énergie. Et pour ça, il faut un réseau qui amène l'électricité par des routes, on va dire, départementales, communales, nationales, jusqu'à nos clients finaux qui sont les Français.
Alors, on va commencer par la question du raccordement parce que, par exemple, il y a de plus en plus de Français qui ont des panneaux solaires, il y a des entreprises qui électrifient leurs machines, on met des bornes pour les voitures électriques un petit peu partout. Et ça, c'est un travail titanesque que vous êtes en train de réaliser.
Absolument, nous relevons ce défi chaque jour grâce à l'engagement de nos salariés, de nos équipes, mais aussi grâce à des investissements importants parce que vous le rappelez, les bornes de recharge électrique, les fours industriels qui passent à l'électricité, eh bien tout ça, les nouveaux commerces, tout ça, ça mérite, ça a besoin d'être raccordé à un réseau, ça ne peut pas être en l'air sans électricité et donc c'est notre rôle au quotidien, de raccorder près de 400 000 raccordements chaque année, un raccordement toutes les minutes et 24 secondes, donc c'est très impressionnant, pour apporter une électricité, et on a beaucoup de chance en France, qui est décarbonée, qui est disponible, qui est compétitive et qui est souveraine puisqu'elle est produite en France.
On va prendre un exemple, les data centers dont on n'arrête pas de parler en ce moment. Il faut au minimum 3 ans officiellement pour raccorder un data center, et encore quand il est sur un terrain où l'électricité n'est pas très loin, la moyenne c'est plutôt 7 à 8 ans. Aux États-Unis, on est plutôt sur 18 mois. Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire ?
Vous citez les États-Unis, on peut aussi regarder une chronique très faible d'investissement dans les réseaux dans les années passées. Donc là, ils sont en train de rattraper un certain retard, notamment pour faire face à l'arrivée des data centers.
Vous dites que les réseaux sont là-bas, par exemple, extrêmement vieillissants.
Voilà, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de vieillissant pour le réseau géré par Enedis. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous investissons de manière continue pour le moderniser. Encore cette année, l'année passée, 1,4 milliard pour l'enfouir, le rendre plus résilient aux aléas climatiques. Et donc, pour les data centers, eh bien, il faut bien sûr que l'infrastructure soit là.
Qu'est-ce qu'on fait alors, pour être dans le match mondial
choses. D'abord, il faut réduire les délais administratifs, hein, parce que dans le temps que vous citez, il y a aussi beaucoup de phases d'autorisation administrative.
Donc ça, c'est une énième nouvelle loi de simplification.
Ça fait partie des mesures qui sont envisagées. Certaines ont déjà été prises. Et il faut aussi se raccorder là où il y a de la disponibilité sur le réseau de transport et de distribution.
Vous l'avez dit, vous avez deux missions, raccorder et renouveler ce réseau, certes peut-être un peu moins vieillissant, mais par exemple qui n'était pas adapté pour faire face à des sols qui peuvent aller aujourd'hui jusqu'à 50, 60 degrés. Vous êtes donc obligé de changer par exemple le cuivre que vous aviez dans les sols pour avoir des choses qui résistent tout simplement à la chaleur, pour éviter, hein, soyons concrets pour tous ceux qui nous écoutent, le blackout.
Alors nous vivons effectivement à Enedis le réchauffement climatique de manière très concrète et nous consacrons une grande partie de nos investissements à le rendre plus résilient à ces aléas climatiques. On l'a vu encore récemment, la tempête Goretti, des vents à 230 km/h sur le nord du Cotentin. Donc ça suppose à la fois, c'est faire deux choses. Investir, je l'ai dit, pour enfouir, pour moderniser, rétrofiter, changer les matériaux, vous avez évoqué le cuivre, mais aussi avoir des forces d'intervention mobilisables très rapidement quand les aléas climatiques se produisent, et ils se produisent de plus en plus souvent et de
là,
plus en plus fortement.
Vous essayez d'être le plus efficace possible, j'ai envie de dire c'est la moindre des choses qu'on vous demande, mais vous utilisez notamment l'IA et les données de Météo France que vous combinez. Il y a quelques années, vous positionnez, quand vous saviez qu'une tempête allait arriver, à plusieurs dizaines de kilomètres parce que vous n'aviez pas une précision très claire. Là, typiquement, pour Goretti, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'électricité, hein, ça a pris des jours et des jours avant de revenir, mais malgré tout, vous aviez réussi, grâce à ces données combinées, à mettre les gens presque au bon endroit.
Absolument. Alors, pas des jours et des jours, puisque le vendredi matin, nous avions près de 400 000 clients coupés et le samedi soir, nous avions rétabli 90% de ces clients.
Vous diriez que c'est la première fois que vous avez été aussi efficace
non,
dans une tempête aussi grosse.
Non, nous sommes à chaque fois. C'est un engagement que nous avons pris dans le projet d'entreprise industrielle et humaine d'Enedis en 2020 et nous le tenons. Et donc, nous raccordons, nous réalimentons 90% de nos clients en 48 heures lors de ces événements exceptionnels. Et vous l'avez dit, nous utilisons nos algorithmes, les données. Enedis, c'est 1 milliard de données produites chaque jour. Nous sommes aussi une grande entreprise technologique pour analyser ce qui va se passer et puis prépositionner nos équipes d'intervention, notre force d'intervention rapide de l'électricité, là où nous savons que le réseau va être affecté par des vents violents, par des chutes d'arbres.
Alors, ça a beaucoup fait la critique quand ça a été lancé, mais le fameux compteur Linky, c'est ça qui, en partie, vous donne des données. Je crois que vous êtes même l'entreprise en Europe qui a le plus d'objets connectés en temps réel. À quoi, très concrètement, cette donnée vous sert aujourd'hui, la nôtre finalement?
Alors 39 millions effectivement de compteurs intelligents, un grand programme industriel réussi dans les délais et en dessous du budget prévu. Globalement, ça a deux avantages, deux utilisations. Pour nous, Enedis, ça nous sert à mieux piloter le réseau en temps normal, mais aussi dans des circonstances exceptionnelles. Et pour les fournisseurs d'électricité, que nous ne sommes pas, ça leur sert à faire des offres aux clients, les Français, pour mieux suivre et donc maîtriser leur facture d'électricité.
Alors, je crois que justement aujourd'hui, 50% de la donnée est récupérée. Vous voulez aller très rapidement à beaucoup plus que cela. Comment on fait ça sans qu'on ait l'impression d'être surveillé?
Alors, nous ne sommes pas en train de surveiller. Je ne sais pas, Emmanuel Duteil, à quel moment vous prenez votre douche, rassurez-vous.
Et donc, ce serait une information passionnante.
Voilà, passionnante. Maintenant, donc vous imaginez bien qu'elle m'intéresse. Non, l'intérêt de ces données qui sont globalisées et anonymisées, elles sont utilisées par les fournisseurs hein, pour analyser les modes de consommation de leurs clients et donc leur faire des offres le week-end, le soir, des offres vertes qui soient plus adaptées à leur volonté de maîtriser cette facture dont on sait qu'elle est importante et qu'elle est maîtrisée par les Français. En tout cas, nous essayons de les aider à cela.
Justement, parlons facture. Depuis novembre, les heures creuses bougent. Hein. Ce n'est pas que pour véritablement coller à nos habitudes. C'est parce qu'on a trop de solaire en plein milieu de journée dont on ne sait pas quoi faire. De façon très concrète, est-ce que ça va faire baisser quand même la facture des Français ?
Alors la première utilisation de cette grande réforme qui est en cours, hein, nous sommes dans la phase 1, et donc c'est 5 millions de clients qui sont concernés, c'est de permettre aux Français de consommer l'électricité quand elle est produite par l'énergie renouvelable, hein, de manière abondante, notamment
parce qu'on a toujours un
au
peu
milieu
de, mal à
de l'après-midi.
La
stocker. Voilà, donc c'est d'abord faire mieux coïncider la production d'électricité et ses périodes de consommation. Et c'est ça l'intérêt. Et donc, le client, effectivement, va avoir accès à une électricité qui va être produite
mais
dans des conditions
optimales. Mais ça va faire baisser
optimales.
Ma facture.
Ça peut faire baisser la facture, mais ce n'est pas le but principal. Non, ce n'est pas le but,
principal. On attend depuis des mois la PPE, ça ne veut rien dire, mais c'est la loi qui doit nous permettre de prévoir nos besoins énergétiques pour les années à venir. Vous êtes très critique sur le fait qu'elle n'arrive pas. Hein. Le gouvernement ne la sort pas pour des raisons purement politiques. Là aussi, de façon concrète, à quoi ça vous sert? Ça vous oblige aujourd'hui, par exemple, à arrêter des chantiers en disant bah, « je vais attendre qu'elle sorte parce que je ne vais peut-être pas aller dans cette direction ».
Heureusement, non, Emmanuel Dutheil, ça ne m'oblige pas à arrêter des chantiers. Nous avons beaucoup d'activités, nous sommes une entreprise en croissance hein, pour réussir cette deuxième électrification de la France. Mais nous sommes une entreprise, je l'ai dit, industrielle. Vous avez beaucoup parlé d'emploi et d'usines dans les minutes qui précédaient. Les réseaux électriques, c'est aussi une filière industrielle, une filière souveraine hein, qui a des usines en France et en Europe. Et cette filière, et moi également Enedis, en tant que je passe des marchés, je passe des commandes de câbles, de tôles, de matériel, j'ai besoin de visibilité sur le moyen long terme parce que nous sommes une industrie.
Mais est-ce que vous en avez ? Parce que par exemple, vous avez besoin de transformateurs pour réussir à relier, on va faire simple, l'électricité. Il n'y en a quasiment plus sur le marché. Vous allez être obligé d'aller acheter autre part qu'en Europe pour pouvoir réussir à cette opération de la deuxième électrification ?
Non, nous achetons nos matériels électriques à 75% en France et 95%...
Et notamment le compteur Linky, alors que l'un des grands concurrents est chinois et un peu moins cher que le vôtre.
Absolument. Alors, les compteurs intelligents sont beaucoup fabriqués en Chine. Nous n'achetons pas de compteurs intelligents en Chine et nous faisons travailler des usines en France, partout en France, puisque Enedis est aussi présent partout en France.
Pour des questions aussi de cybersécurité, parce que c'est l'un de vos énormes défis. Vous êtes un élément critique.
Oui, pour des raisons à la fois de souveraineté. Nous mettons, pour des raisons RSE aussi, puisque nous mettons des critères de santé-sécurité, d'apprentissage, de formation, d'impact environnemental réduit dans nos appels d'offres. Et donc, nous passons des marchés avec des entreprises françaises.
Donc avec une sorte de protection européenne que vous essayez de mettre en place à votre niveau en respectant les règles européennes.
Vous savez, les crises que nous avons vécues, très nombreuses depuis plusieurs années, nous montrent que une grande industrie, elle a besoin d'une chaîne industrielle résiliente à ces crises. Et donc, être localisée au plus près avec des industriels que nous connaissons, avec qui nous sommes en partenariat au sein de la filière notamment, c'est très important.
Pour ça, vous avez besoin des humains. 3100 recrutements là, qui viennent d'être annoncés. C'est quoi le job dont vous avez le plus besoin là, si certains nous écoutent et veulent vous rejoindre?
Alors, nous allons effectivement recruter 3100 personnes en 2026, après en avoir recruté 3500 l'année dernière, 1700 CDI, 1400 apprentis, nous croyons, j'ai entendu votre débat, mais beaucoup à l'apprentissage comme voie d'excellence. Globalement, c'est majoritairement dans des métiers techniques à 85%. Donc, nous avons besoin de jeunes, des garçons et des filles, qui aient des diplômes comme un bac pro, spécialité électricité, un BTS. Nous engageons aussi des data scientists, des informaticiens.
Et là, vous travaillez beaucoup avec l'éducation nationale pour adapter les programmes. Un dernier point très, très, très concret. J'ai été appelé par officiellement quelqu'un d'Enedis me disant qu'il fallait peut-être que je paye autrement. Ça se multiplie, ces attaques. Comment on fait pour ne pas se faire avoir? C'est un fléau en ce moment.
C'est un fléau, Emmanuel Dutheil, et moi aussi je suis appelée par des intelligences artificielles qui se réclament d'Enedis. Je le dis très clairement à nos clients, c'est une arnaque. Nous sommes un service public, nous ne vendons pas de panneaux solaires, nous ne démarchons pas les clients, donc bloquez ces numéros, vous pouvez nous les signaler sur notre plateforme client, et nous utilisons toutes les voies juridiques pour faire cesser ces démarchages frauduleux.
Et ben, en 12 minutes, vous avez été parfaite. Merci beaucoup, Marianne Léniaud.
Merci.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
L'écho à la page, c'est chaque dernier samedi du mois. On retrouve avec un énorme plaisir Christian Chavagneux à l'affût, hein, il faut bien le dire, de tout ce qui est publié ici ou ailleurs.
Tesla, je ne sais pas si vous avez vu, Christian, a annoncé cette semaine pour la première fois un recul de son chiffre d'affaires. Et justement, vous avez été passionné par les dossiers noirs d'Elon Musk. Sa part sombre est aussi largement présente, semble-t-il, dans la gestion de ses entreprises.
Oui, tout à fait. C'est un livre d'Yvonique de Noël aux éditions Nouveau Monde. Alors on se dit, bon, Elon Musk, il a fait la une de l'actualité l'année dernière pour ses prises de position politiques. Mais au moins, c'est un grand industriel. Dans les dossiers noirs d'Elon Musk, on va plonger par exemple chez SpaceX, on va s'apercevoir qu'il y a un taux d'accident du travail très largement supérieur à ce qui se passe dans le secteur. Pourquoi ? Parce que les consignes de sécurité, on les met de côté, il faut produire, produire, produire. Tesla, on sait bien, on découvre, pardon, dans ses enquêtes, que le constructeur laisse filer des voitures avec des problèmes. Et lorsque les clients viennent en disant la voiture a des problèmes, c'est parce que vous ne savez pas conduire. Bon, les ordinateurs qui donnent de l'autonomie en vous disant vous pouvez faire tant de kilomètres, en fait, gruge complètement. L'autonomie est bien plus faible. Bon, on connaît les tendances complotistes de X, son réseau social. On sait que Grok, son IA, a eu quelques soucis ces derniers temps. Mais il y a un chapitre assez particulier qui nous dit que Musk utilise beaucoup d'officines privées de renseignement pour espionner ses concurrents, les journalistes qu'il ne l'aime pas, ses anciennes et ses actuelles petites amies. Un sacré personnage, Elon Musk. Hein.
Effectivement, ça donne envie en tout cas de lire ce livre. Christian, on va s'intéresser maintenant à un sujet également très 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 important, hein. Une enquête sur l'économie souterraine de la traite des êtres humains.
Oui, le livre s'appelle « Les nouveaux esclavagistes » par Barbie Lazzanado, c'est chez Grasset. On apprend énormément de choses sur ce monde opaque. D'abord, c'est une activité en plein essor. Ensuite, la prostitution, on pense à ça, hein, lorsqu'on pense à ce genre d'activité, c'est 22% seulement. Les femmes, mais attention, nous dit l'autrice, de plus en plus de jeunes hommes aussi. Et plus tard, vous avez un chapitre sur l'exploitation sexuelle des jeunes enfants. Il faut être bien accroché pour bien traverser ce chapitre. Le travail forcé, 68% de tous ces types d'activités. La fast fashion, le luxe, y ont beaucoup recours. Pour le reste, le trafic d'organes, la gestation pour autrui, et puis les soldats de l'escroquerie, on vous force à vous mettre derrière un ordinateur ou un téléphone pour escroquer les gens. Ce qu'on apprend dans le livre, au fait, c'est que, oui, bien sûr, il y a des réseaux criminels derrière tout ça, mais les multinationales l'utilisent, mais les banques laissent passer l'argent, mais l'industrie du tourisme, en tout cas une partie d'entre elles, l'utilise. Un sacré monde pas très, très ragoûtant.
L'écho à la page avec vous, Christian, c'est chaque dernier samedi du mois, et on retrouve bien sûr toutes les références des livres sur la page dont n'arrête pas l'écho.